Bon, oui. Alors, parlant de mots, j'ai dit beat, c'est un anglicisme.
Petit rythme.
Oui, petit rythme. Mais on le dit beat quand même.
Hein? Oui.
Ouais. Alors aujourd'hui, vous n'allez pas nous parler ni de beat, ni de rythme, mais de mots sur les thèmes de la nourriture et des vêtements, oui. André.
Et tantôt, vous avez introduit en parlant de singe.
Oui.
Alors, je commence par singe.
Est-ce que ça a rapport avec la machine à coudre, Seigneur?
Non, pas du tout. Et ça n'a pas rapport aux singeries non plus.
Non?
Non. Mais on parle du fait de saupoudrer de la farine sur une viande avant de la faire revenir puis d'ajouter un liquide.
Oui, j'ai déjà
singer
entendu,
une viande.
C'est vrai.
Ben oui, ben oui. Au 18e siècle, on appelait familièrement jus de singe. Oui, jus de singe.
Prendrais-tu un bon petit verre de jus de singe?
Je vais vous dire pourquoi.
OK.
Un caramel liquide qui était utilisé par les cuisiniers pour colorer et imiter la belle couleur brune des sauces sans avoir à faire mijoter longuement la viande.
Ah.
Une drôle de pratique, hein?
Oui, oui.
Et le mot-clé ici, c'est « imiter ». Parce que justement, ça voulait imiter une viande mijotée, mais ça n'en était pas. Donc, « imiter », c'est la référence au singe.
Parce que le singe imite.
D'où le jus de singe, exactement. Heureusement que la pratique a évolué, là. on fait plus ça, mettre un colorant pour faire croire que. Mais le terme est resté pour désigner la pratique actuelle de saupoudrer de farine, etc.
Malgré que vous dites ça, qu'il n'y a plus de colorant, il n'y a plus de colorant pour les sauces utilisées.
Ben, si vous achetez des sauces en enveloppe, oui.
Oui,
mais
même si on fait une sauce maison, on peut rajouter, je ne dirais pas la marque, mais quelque chose pour donner une coloration peut-être plus belle à l'œil là, et appétissante. Oui, mais c'est ça, ce n'est pas nécessairement du jus de singe. Autre mot, André.
Pigrassé. Est-ce qu'on disait ça chez vous?
J'ai jamais entendu ce mot-là. Mathieu connaît.
Oui, ma grand-mère disait ça, pigrassé.
Ah oui? Oui, oui. Arrête de pigrasser? Oui.
Arrête de pigrasser dans ton assiette, là. Ça veut dire jouer avec sa nourriture sans vraiment manger.
Picosser.
Hein, dans son pâté chinois, là, on faisait des routes, on faisait.
Des cœurs avec le ketchup.
Voilà. C'est un verbe qui vient de l'ancienne langue d'O'il. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une langue régionale qui était pratiquée notamment dans le Perche, région de la France. Et le mot « pigras », ça désignait la vase ou la boue.
Ah.
Donc, à l'origine, « pigrasser », c'était patauger dans la vase ou la boue. Et on l'a transposé à la nourriture. Vous savez, un ragoût extrêmement cuit, là, ça peut avoir l'air
de boue.
Boue de
oui,
vase.
Oui.
J'imagine que c'est là qu'on a fait la transposition.
Ah, ouais. Pigrasser, bien, j'en tiens ça, c'est bien.
Ouais. Et tant qu'à parler de bouffe, on va parler de bedaine et de bedon. Ça va bien ensemble.
Mm-hmm.
L'origine du mot bedaine, ça remonte au 14e siècle. Ça nous vient de l'ancien français boudaine, pour parler d'un gros ventre. Et bedon, c'était d'abord un nom pour désigner un gros tambour de forme ronde, forme un peu renflée là, sur le dessus.
Mm-hmm.
Et par comparaison, on a d'abord appelé bedon un homme gros et ventru, avant de limiter la comparaison au seul ventre du monsieur en question.
Puis est-ce que ça a un rapport avec l'expression « ou bedon » ?
Ah, ça, c'est autre chose.
Ou monsieur Bedondaine.
Monsieur Bedondaine, ça, par contre, il était assez grassouillet, monsieur
Bedondaine. Oui, il avait un super ventre. Il était ventru.
Oui. Alors, fait intéressant, les deux mots tirent leur origine des préfixes « bod » et « boud » qui servent à désigner ce qui est enflé, rond, boursouflé, comme dans les mots boudin. Boudé, à l'origine, boudé, ça voulait dire faire la moue en gonflant les joues ou les lèvres.
Ce que je suis en train de faire, là.
Ce que vous êtes en train de faire, mais on est à la radio. Et baudruche, qui s'écrivait B-O-D à l'origine, mais B-A-U-D maintenant, qui est la pellicule gonflable en caoutchouc aujourd'hui, là, utilisée notamment pour les ballons.
Ah! Ouais. On poursuit maintenant avec le mot emmitouflé.
Emmitouflé, j'aime bien ce mot-là.
Oui.
Ça nous vient du 16e siècle, emmitouflé, formé du préfixe M-E-M et du nom mitoufle. C'est quoi ça, mitoufle? C'est un ancien synonyme de mitaine ou de moufle. Le premier sens signifie donc qu'il porte de grosses mitaines, ce que ça voulait dire à l'origine, mais on a élargi ensuite la définition pour décrire le fait d'être littéralement empaqueté, on peut dire, dans des vêtements chauds, épais ou des fourrures pour se protéger du froid.
Mais je préfère emmitoufler à empaqueté.
Oui, j'ai mis empaqueté entre guillemets.
Ouais. Dépenailler.
Dépenailler, on disait en haillon à l'origine, pour décrire le fait d'être habillé de vêtements usés jusqu'à la corde ou en pièces. Dépenailler, ça, c'est apparu plus tard, à la toute fin du 18e siècle. Ça vient du mot penaille. C'était quoi, ça, les penailles? Ouais. Ça désignait de façon péjorative l'ensemble des vêtements d'une personne. Ah, des vieux vêtements, souvent déchirés, usés à la corde. Et l'ajout du préfixe « dé », ça a permis d'exprimer l'idée de désordre ou de destruction ou de l'amplifier. Donc, dépenailler, ça qualifie une personne vêtue de haillons ou dont la tenue est très négligée et en désordre.
Ce qui n'est pas votre cas.
Merci.
Vous y allez maintenant avec des mots en tout genre.
Oui. Cabosser, hein, pour faire des bosses ou des creux pour déformer un objet. La première trace de cabosser, ça remonte au 14e siècle. On disait cabossier, C-I-E-R. Ça voulait dire tout simplement former des bosses. Et la forme cabossée, la forme actuelle, elle apparaît au 19e pour exprimer le fait de déformer un objet par des coups. Et le verbe cabosser, ça a contribué à la naissance des mots cabosse, qui désigne le fruit du cacaoyer. Hein, vous savez, la grosse coque bosselée du, du cacaoyer qui contient les graines savoureuses.
C'est cabosse.
Cabosse et caboche pour la tête.
Ah, hein, avoir une tête de... Non, comment on dit ça?
La caboche, simplement, pour dire la tête. C'est un synonyme de tête.
C'est drôle quand même. Hein?
La caboche.
Oui,
c'est
il y a une
grosse
caboche.
Bosse, la tête, dans le fond. C'est ce que ça veut dire.
Et continuez.
Un mot, merci. Un mot issu de la chevalerie maintenant, adoubé, qui provient d'une langue très lointaine, l'ancien bas francique. On disait Duban ou Dubban, je ne sais pas comment le prononcer, D-U-B-B-A-N, ça voulait dire frapper. C'était quoi ça, l'ancien bas francique en passant? C'était la langue parlée par les Francs. À partir du 5e siècle, les Francs habitaient le nord de la France, le territoire actuel des Pays-Bas et la Flandre. Et en français, adouber, ça apparaît au 12e siècle pour désigner l'action d'armer et de nommer, au sens de recevoir, là, protocolairement parlant, un nouveau chevalier. Parce que son parrain lui donnait un coup rituel. Hein, c'est l'idée du coup qu'on appelait la paumée sur la nuque ou sur l'épaule. Aujourd'hui, adouber, c'est, le terme est resté au sens figuré, soit pour dire qu'on valide, qu'on soutient ou qu'on consacre une personne ou un projet par les pairs, en fait. Exemple, un artiste adoubé par la critique. Ou bien aux échecs ou aux dames, toucher une pièce uniquement pour la centrer ou la remettre bien en place sur sa case sans la jouer.
Adoubé.
Adoubé. Hélène, êtes-vous parfois turlupinée par quelque chose?
Ah oui, très souvent.
Très souvent, moi aussi. Le verbe turlupiner.
C'est humain, hein?
Humain, bien oui. Ça vient du théâtre, ça, turlupiner, et d'un de ses personnages, Turlupin.
Turlupin, ah, il y avait un personnage qui s'appelait Turlupin.
C'était le nom de scène d'un célèbre acteur comique français du 17e siècle qui s'appelait Henri le Grand. Et Turlupin était connu pour ses farces, ses grimaces, ses jeux de mots amusants, souvent grossiers, coquins, grossiers. À l'origine, donc, le verbe est apparu pour signifier faire des plaisanteries ou se moquer de quelqu'un, turlupiner. Au fil du temps, le sens relié aux plaisanteries a disparu. Puis le verbe s'est concentré seulement sur l'idée d'agacer ou d'embêter quelqu'un, de tracasser son esprit. Mais aujourd'hui, on l'emploie plus par rapport à nous-mêmes. Donc, quelque chose me turlupine, me tracasse, me tourne en rond.
J'ai un turlupin dans la caboche.
C'est ça, exactement.
Je connaissais, on connaît Scapin, les fourberies de Scapin, mais turlupin, c'était quelque chose d'inconnu pour moi.
Ouais.
Alors, passez à tabac.
C'est pas très joli. Hein? Frapper quelqu'un avec violence en lui infligeant des coups répétés, passer à tabac. À la fin du Moyen Âge, tabasseur ou tabastar voulait dire molester, donc brutaliser quelqu'un. Puis au 17e, on dit donner du tabac pour exprimer le fait de donner des coups. L'expression « passer à tabac » va apparaître seulement...
Donner du tabac, c'est pas passer une cigarette.
Non, ça peut-être que c'était ça aussi, mais il y avait un autre sens. « Passer à tabac », ça apparaît seulement au 19e siècle, suivi par le verbe « tabasser » au début du 20e. Mais ce qui est intriguant dans tout ça, c'est l'emploi du mot « tabac » avec un « c » dans l'expression.
On ne prononce pas hein, « tabac », on
ne
dit pas « tabac ».
On dit « tabac ». Mais jusqu'au 19e, on disait « tabac » avec un « s ».
Ah oui!
Hein? Souvenez-vous, je vous ai dit au Moyen-Âge « tabassard »,« tabastard », donc c'était « tabac », T-A-B-A-S. Et c'est au 19e que « tabac » s'est confondu avec « tabac ». Avec le C. parce que la prononciation est identique. Puis tabac avec le C est devenu la norme. Mais il n'y a pas juste l'expression « passer à tabac hein, » où ce changement s'est produit. Au théâtre, à partir du 19e, « faire un tabac
ah, », oui,
l'expression
vrai.
Apparaît pour dire qu'une pièce connaît du succès. Ça, c'est en référence aux applaudissements fournis et bruyants, un peu comme si on battait quelqu'un, on bat des mains, en fait. Et toujours au 19e siècle, le vocabulaire
en
de la marine...
En battre des mains, battre quelqu'un.
Oui, c'est... oui. Ben oui on se comprend ouais. que c'est, on étire le sens des choses, mais la langue évolue comme ça. Hein. Et toujours au 19e, la marine s'empare du mot tabac pour l'expression coup de tabac, pour désigner une tempête maritime violente et soudaine.
Et j'ai du bon tabac dans ma tabatière?
Ça, c'est le vrai tabac, ça.
Bien, vous avez fait un tabac encore,
ah, merci,
encore
là.
Une fois ce matin.
Merci. Là.
Merci, André Lacombe. Et on va se retrouver dans 2 semaines?
Eh oui.
Puis, ça va être avec
ah,
le même plaisir.
Ah, dans 2 semaines, non. Désolé, je pars.
Ah, vous partez
je
dans
pars
2 semaines.
Je pars le 15, justement.
Et vous reviendrez
en
quand
octobre.
Même. Oui, avec, j'imagine, plein d'autres images.
De beaux récits de voyage,
ça, c'est sûr. Bien, André, on se quitte pour mieux se retrouver. Passez du
exactement.
Bon temps, puis où vous soyez, soyez heureux.
Merci,
salut.
Hélène.
La chronique économie s'en vient tout de suite après la pause.